Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Wendel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Avec Arnaud Ducret, il sera à l'affiche mercredi du film Mine de Rien, l'histoire de deux chômeurs qui construisent un parc d'attractions artisanales. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu mais professionnel. Et puis dans les indispensables, une exposition romantique et une histoire de vampire moins romantique. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Wendel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture, journal qui débute par une comédie musicale sur Edith Piaf à Stockholm, avec un casting qui peut surprendre.
Étrainée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin.
Et oui Philippe, puisque les Suédois retrouveront dès le 19 septembre prochain sur scène la mère et la sœur de l'activiste suédoise Greta Thunberg.
Oula.
Et oui, ça se passera au théâtre Gotha Le Jon à Stockholm. Alors Bita Ernam, la petite sœur de Greta Thunberg, âgée de 14 ans, interprétera Edith Piaf. Jeune, le rôle principal sera tenu par sa maman. La comédie musicale s'intitule Forever Piaf, tout simplement. Bita Ernam partage également avec sa grande sœur Greta un intérêt pour la cause environnementale. La maman, quant à elle, est une mezzo-soprano. Elle s'est déjà produite dans les plus grandes salles d'Europe. Elle avait représenté la Suède au concours de l'Eurovision en 2009 à Moscou. Sacrée famille, donc, quand même.
Ouais, et en parlant de sacrée famille, les enfants de Steven Spielberg se lancent dans le cinéma dans des genres bien précis.
Alors il y a
Sauger.
Oui, toujours. C'est moderne.
C'est non, mais moderne. C'est le 35 mm, ça n'existe plus depuis 15 ans, 20 ans.
Il faut le dire à Nicolas souvent, je ne gère
pas. Il nous écoute, j'espère.
Sauger, le fils, donc 27 ans déjà, fera ses débuts sur grand écran dans un film d'horreur, Honey Dew. Il aura le rôle principal. Et puis il y a la fille adoptive du réalisateur Michaela. Elle se lancera prochainement dans la production de ses propres films pornographiques.
Non.
Et oui.
La fille de Spielberg.
Exactement.
Et le papa laisse faire.
Je vais vous raconter la réaction. Elle est âgée de 23 ans. Est-ce que je l'ai appelée? Je vais demander du coup.
Ouais, bien sûr.
Elle souhaite obtenir un permis de travailleuse du sexe dans l'état de Tennessee, où elle aimerait également être stripteaseuse. Alors selon la jeune femme, ses parents ont été, je cite, intriguée mais compréhensif. Quelques jours plus tôt, elle avait annoncé la nouvelle sur Instagram en affirmant « Mon corps, ma vie, mon salaire, mon choix, je ne dois rendre de compte à personne à cause de mon nom.
» Le Mulan de Disney version live action sera interdit au moins de 13 ans. Non, les
ça
gars,
suffit.
non, c'est bon.
Oh.
Moi, j'aime bien.
Ouais.
Alors, Mulan.
On vous fera une cassette, Linda Costa, pour votre week-end. Allons-y Hélène, continuons.
Un dessin animé culte, donc interdit aux enfants. C'est désormais le cas aux États-Unis en cause des scènes de violence. C'est la première fois que ça arrive. Hein. On n'est donc pas dans un film musical. Le dernier film Disney à avoir reçu une interdiction similaire, c'était Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar en 2017. Alors on ne sait pas encore comment ça se passera en France. Mulan pourrait être interdit au moins de 12 ans. Il sortira le 25 mars prochain.
Et ça fait un excellent sujet à creuser pour quelle raison Disney ne coupe pas les passages litigieux? Pourquoi ils préfèrent que le film soit interdit? C'est un très très bon sujet à creuser. Un record désormais pour les œuvres vendues sur le marché de l'art en 2019.
Très belle performance pour la France concernant le nombre d'œuvres vendues aux enchères. Et on parle de record absolu, 550 000 lots, donc peintures, sculptures, dessins, photographies, installations. Je rappelle juste, en 2018, il y en avait 539 000. Alors les 550 000 ont été vendus aux enchères dans le monde en 2019 pour un total de 13,3 milliards de dollars. La France a la meilleure progression mondiale, pardon, reprenant peu à peu son rôle de grande puissance avec un chiffre d'affaires de 827 millions de dollars, soit plus de 18%.
Et puis de la musique pour finir ce journal.
Céline, c'est mieux d'écouter ça ce week-end quand même.
Oui.
Voilà.
Alors, je veux bien le son de Nicolas quand même.
Ce n'est pas pour vous parler d'un album posthume de Whitney Houston, mais d'une tournée en hologramme. Ça s'appelle An Evening with Whitney, the Whitney Houston Hologramme.
Alors, c'était long là.
Je vais vous raconter quelque chose. J'ai lu cette phrase tout à l'heure, voilà, et j'étais sûre que j'allais me planter.
Ouais.
Donc c'est chose faite. Et je l'assume.
Grâce à son accent anglais
stratosphérique. Exactement. Donc en tout cas, ce spectacle, il débute mardi en Angleterre. Mmh. La tournée européenne dure jusqu'au mois d'avril et il y aura ensuite des dates aux États-Unis, En France, rendez-vous le 15 mars à la salle Pleyel à Paris pour voir Whitney en hologramme.
Et j'aurais bien aimé entendre, Hélène Manarino, votre conversation en anglais avec la fille de Steven Spielberg qui se lance dans le porno. Vous revenez avec
elle
nous pour
embrasse.
Le portrait inattendu.
J'ai compris ça, elle vous embrasse.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média ce matin, on est très heureux d'accueillir Arnaud Ducret, Philippe.
Bonjour Arnaud Ducret.
Bonjour.
Vous êtes comédien, humoriste, le grand public vous a découvert sur France 2 dans Parents en mode d'emploi. Vous êtes également un invité récurrent d'Arthur dans Vendredi tout est permis. J'arrive même plus à le dire.
Vendredi tout est permis.
Je me disais, est-ce que je vais dire Vendredi tout est permis ou VTEP? J'ai hésité entre les deux et voilà, je me suis viandé. Voilà, c'est comme au sommet d'une côte quand on double un camion, soit on y va, soit on y va pas. Mais tu restes pas à côté comme un bonnet. C'est ce que j'ai fait, voilà, ça m'apprendra.
Sinon ça crache.
Vous étiez le prof de sport dans Prof 1 et 2 et aussi des one-man shows comme Arnaud Ducret vous fait plaisir. Et là, vous êtes à l'affiche de Mine de rien, film de Mathias Mlekuus qui sort mercredi. Alors Mathias Mlekuus, ça s'écrit M-L-E-K-U-Z, on dirait un tirage de Scrabble, mais c'est un nom d'origine polonaise et qui a du sens dans l'histoire de ce film et même dans la genèse de ce film.
Ben oui, parce qu'en fait, son grand-père était mineur. Et il est rentré dans les mines de charbon à l'âge de 13 ans.
Mineur polonais. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi.
Mineur polonais, il est descendu dans les mines de charbon à l'âge de 13 ans. Et donc, il lui a raconté, à la suite, évidemment, il lui a raconté plein d'histoires sur cette mine. Ça a intrigué totalement ce gamin qui était Mathias. Et quand il voyait les wagonnets, par exemple, de la mine, il imaginait un train fantôme. Il disait que les mecs partaient comme ça et qu'il y avait un train fantôme en bas. Et donc, ça, c'est la genèse de ce film Mine de rien. Quoi.
Film très personnel qu'il a commencé à écrire en 2013, donc il y a 7 ans. Vous-même, vous arrivez quand dans le projet ?
2014, je crois, 2015, un truc comme ça. Il me propose ce film il y a 6 ans. Je dis oui tout de suite parce que j'adore la poésie qu'insuffle Mathias et Philippe Rebaud qui a coécrit avec lui, qui joue dans le film.
Ouais.
J'ai trouvé ça très joli. Il y a d'ailleurs très rapidement, il y a Hélène Vincent qui joue ma maman.
Ouais.
Pour vous dire que quand je lis le scénario, je vois que Hélène Vincent qui joue ma mère. Donc, et je ne savais pas que c'était elle à l'époque. À Alzheimer, donc ma maman dans le film a Alzheimer et dans une boîte de Chopic, elle a les cendres de mon père. Et j'ai trouvé ça extrêmement poétique. Elle se balade avec cette boîte, vous le verrez dans le film.
Mais je l'ai vu le film.
Voilà. Je parle aux gens qui nous écoutent.
Ah d'accord. Pardon. Comme vous me regardiez, je me disais tiens.
Mais il y a des gens qui nous écoutent. Ah bon ?
Oui, je sais. De plus en plus, voilà. Merci. Ah. Et vous nous écoutez.
Vous m'avez dit en
arrivant dans le studio que vous écoutiez l'émission tous les jours.
J'écoute beaucoup Europe 1 et j'aime beaucoup cette radio. Donc merci de m'inviter. Je suis très content d'être là.
Bref, la boîte de Chopic. En fait, c'est une boîte de Nesquik, mais vous n'avez pas les droits.
Voilà,
en fait.
On a bien compris,
parce qu'elle est jaune. J'ai bien compris. Que raconte le film ?
Il raconte l'histoire d'un petit collectif, un petit groupe de gens qui sont en formation, en stage pour travailler dans une boîte qui s'appelle Armageddon. Cette boîte, au dernier moment, part dans les pays de l'Est parce que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et nous, on n'est même pas au courant. C'est-à-dire qu'on arrive le matin pour faire le stage, les portes sont fermées. Et on est totalement pris au piège. On décide de remonter nos manches et de se dire, si l'État ne nous aide pas, l'État nous oublie, on va essayer de faire quelque chose, quoi. Donc, cette mine, tout d'un coup, on se dit, tiens, si on en faisait un parc d'attractions. Et là, démarre une histoire pleine d'aventures, d'espoir et de poésie, une fois de plus, quoi.
On va entendre la bande-annonce.
Bonjour, 100 euros, s'il vous plaît.
Désolé, c'est pas possible. Il vous reste 80 centimes.
Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot.
Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrais plus tolérer votre occupation.
Et qu'est-ce qu'on propose à notre âge ?
Mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il n'y avait plus à construire un parc d'attraction, viens.
Mais c'est une super idée.
Complètement con.
Bah, toi, tu sais construire un parc d'attraction ?
Madame le maire !
Avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs,
on souhaite transformer la mine en parc d'attraction pour Noël.
Où sont les wagonnets ?
Je vois pas de quoi tu parles.
Vous savez combien ça peut vous coûter, une dégradation de bien public ? Je ne laisserai pas détruire ma ville.
On est à plus de 280 likes, les enfants !
Il est où votre manège, là ?
Vous êtes dessus.
J'ai plein de messages.
Ah bon ?
Il y a même un Russe qui veut nous confier. Il veut construire un train fantôme à Tchernobyl.
C'est une histoire vraie ?
C'est pas une histoire. En tout cas, je sais que dans les années 50, aux États-Unis, il s'est inspiré aussi de ça d'ailleurs. Enfin, il s'est rencardé, mais il y avait un monsieur qui avait décidé de faire un parc d'attractions dans une mine, effectivement, aux États-Unis dans les années 50, avant Disney, je crois.
Ouais, mais c'était une mine d'or, parce que je me suis rencardé. C'était pas une mine de charbon.
Ça a cartonné, tout le monde est arrivé. Ouais.
Où est-ce que vous avez tourné ?
On a tourné à Lens et à Los Angeles. C'est là où je me suis fait avoir. Hein. J'ai cru entendre Los Angeles, moi.
Ouais.
Et c'est pas Los Angeles.
Oh, dis donc, puisque vous ironisez, ça caille, non ?
Ah, il fait extrêmement
froid. Ah non, mais quand même.
Ah bah oui,
il
fait c'est énorme.
Ouais, mais c'est tout ce qui. Ça fait partie du paysage, c'est ce qui donne la lumière de ce film, la couleur, c'est tout ça. Et ce n'est pas du tout misérabilisme ou difficile, c'est très drôle.
Je le confirme, il y a un moment donné, la veille de l'ouverture, vous buvez des coups en terrasse, dehors, en pleine nuit, vous avez de la buée qui sort de la bouche. Là, je me suis dit.
Non, mais c'est comme dans Titanic, hein, tout
ouais.
est faux. Hein,
vous ah savez, ouais,
c'est
dans, tout
comme,
est faux.
Comme Leonardo DiCaprio, on n'a jamais froid, en fait.
Non. Voilà. C'est un petit budget, en plus.
Ouais, c'est un film à petite économie. C'est pour. Voilà. Mais c'est marrant parce que ces petits budgets, s'il y avait eu un gros budget sur ce film, par exemple, sur une histoire comme celle-ci, ça n'aurait pas la même, ça n'aurait pas eu la même finalité, quoi. Voilà, ça, tout est à l'image. Et en plus, on a eu le prix du public à l'Alpe d'Huez, et je trouve que ce qui nous a saisi à l'Alpe d'Huez, c'est que Mathias avec Philippe, ils voulaient faire une comédie. Ils ont fait une comédie aussi, parce que c'est très drôle. Attention, mais on ne s'attendait pas à ce que les gens soient saisis autant d'émotions. C'est-à-dire que ça nous a, j'ai vu des gens pleurer devant moi en me disant, mais c'est tellement beau, merci beaucoup. Donc c'était très marquant, quoi.
Et moi, j'ajouterais, c'est tellement vrai.
Ah ouais.
Arnaud Ducré est notre invité et dans un instant, on va vous découvrir autrement Arnaud Ducré. Et ça, c'est grâce à l'enquête minutieuse d'Hélène Manarino qui va nous dresser votre portrait inattendu sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est alors Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Arnaud Ducré, je ne vous présente pas Hélène Manarino. Je sais que vous êtes vu à l'Alpe d'Huez.
Tout le monde la connaît.
Voilà.
Oh,
non, vous êtes vu à l'Alpe d'Huez. Vous le racontez. Est-ce que le film a été projeté là-bas?
Oui.
Et ça vous a fait un sacré effet, Hélène, le film.
J'ai beaucoup pleuré. C'est un film très émouvant, très beau et aussi très drôle.
Ah, voilà. Ouais, c'est à vous.
Bonjour Arnaud Ducré.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, au collège, le proviseur disait souvent, quand on entend rire et que l'on se met à la fenêtre, c'est toujours Arnaud qui est au milieu de la cour et qui fait des blagues. Alors, esprit rieur, oui, depuis toujours, il s'en est passé des choses pour arriver aujourd'hui au King of Comedy que vous êtes,
oh,
référence au King of Pop, ouais. évidemment, dont vous êtes fan. Alors, pour arriver à celui qui sait faire le bruit de la voiture comme personne, voilà, celui qui fait du beatbox comme personne, pendant des heures dans sa salle de bain, même n'importe quel moment, vous êtes inégalable. Celui qui, en ce moment même, essaye de retrouver la télécommande des stores de son ancienne maison. Parce que Arnaud...
Ah ouais, oh la vache.
Arnaud Ducré, vous venez de vendre votre maison.
Ouais.
Sauf que vous ne trouvez plus la télécommande des stores pour que vos voisins puissent ouvrir les volets.
Non, c'est génial. Plus,
c'est votre occupation du moment.
C'est incroyable parce que vous êtes fort. Après cette émission, je vais chercher dans mon box cette putain de télécommande.
Non, attendez, les gens qui vous ont acheté à la maison, ils sont dans le noir.
Ils sont dans le noir.
Voilà.
Non, ils sont pas dans le noir. C'est qu'ils n'arrivent même plus à la fermer. Donc,
donc tout le monde les voit à poil.
Bah, c'est un peu ça. Ouais.
Celui qui, quand il va avec sa compagne aux États-Unis, laisse sa carte bleue à l'entrée d'un restaurant, comme ça se fait souvent, mais qui repart avec celle d'un autre.
Ouais.
Et c'était au tout début du séjour. Et celui qui ne peut pas se passer de l'autobiographie de Quincy Jones et de ce titre.
I'll take good care.
Ouais. That's what I made. That's the poise to do. And I'll be there for you all the time. Ah là là, mortel.
Et qui a été prête aussi pour Michael Jackson, comme ne jamais revendre les places de son concert après sa disparition, pour avoir la sensation d'y avoir été. Alors une vie de rire, mais pas que, de grandes émotions, surtout que vous gérez souvent d'une main de maître. Finalement, tout part de là. Mon petit ourson, et oui, de Chantal Goya, que vous avez chanté au camping quand vous étiez petit, entre deux imitations de Michel Drucker, où c'est votre sœur qui chantait. Petit, vous étiez toujours accompagné de votre marionnette singe autour de votre cou, et vous aimiez vous réfugier sur votre housse de couette Schtroumpf, puisque les Schtroumpfs, c'était votre passion. Voilà, une sœur dont vous vous moquiez de temps en temps, certes, mais une sœur avec qui vous aviez l'habitude aussi d'écouter ça.
Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Caroline.
MC Solar, bien sûr, ouais. Frère protecteur, mais aussi très, très perso sur un sujet, la nourriture. Vous vidiez systématiquement le frigo. S'il y avait une boîte de pain au chocolat et que vous vous leviez avant tout le monde, il n'y en avait plus pour personne. Voilà. Vous avez essayé de vous mettre au foot pour compenser tout ça, sauf que vous aviez des jambes trop longues, donc ça ne marchait pas.
Sur un buste trop court.
Voilà. Je ne l'ai pas dit. Alors Arnaud, des envies de faire rire, de scène, cela vous a toujours accompagné. Votre premier sketch adolescent, c'était le sketch de la mobilette que vous avez réalisé dans le jardin d'un certain Jean-Paul Goury.
Oui.
Et les gens n'arrêtaient pas de rire pendant 45 minutes. Dans vos premiers personnages, il y avait aussi votre maman. Et c'est vrai que la famille n'était jamais épargnée. Vos cousins, à qui vous faisiez croire qu'une bande de voleurs allait venir en pleine nuit dans la maison pour terroriser tout le monde.
Vous savez tout, hein. Oh la vache.
Il y avait tout est vrai.
Oui, ouais, c'est vrai.
Il y avait surtout votre grand-mère. Vous aviez l'habitude de l'enregistrer avec votre cousin Stéphane lorsqu'elle discutait avec une amie à son insu.
Qu'est-ce qu'on voyait c'était des discussions de grand-mère. Donc c'était, ah bah oui, il est plus là, le petit Jean 5 qui était à côté, gros blanc, puis d'ailleurs t'entendais, ouais, ouais. et voilà, bah nous on écoutait, on se tapait des fous rires.
Alors vous étiez très proche de votre grand-mère, mais il faut dire quand même qu'elle vous a bien aidé. C'était votre complice. Lorsque vous rentriez de boîte de nuit, vous alliez tous dormir chez elle. Elle n'était pas au courant. Et le matin, elle découvrait toute une bande de copains dans le salon. Vrai. Elle allait se recoucher pour ne pas vous déranger avant de se mettre en cuisine pour vous faire des steaks.
Ah ouais, ça c'était incroyable. Un jour, elle vient me voir, elle me fait, mais c'est qui dans le canapé? C'est qui? Bah, je dis, tu le connais pas, c'est un pote à moi. On est rentré un peu tard, il s'appelle Xavier. Ah, et là elle me regarde, elle me fait, c'est vraiment la grand-mère. Moi, elle me fait, il va manger ce midi ou pas? La vraie grand-mère, tu sais.
Alors, vous avez très vite trouvé votre rituel à vous, Arnaud, après une soirée assez arrosée, les pâtes. Vous en faites 3 kilos à 4h du matin, non. Mais c'est uniquement pour vous, c'est quand vous êtes tout seul.
Mais c'est pas possible.
Ça existe encore, parce que j'ai ma fiancée qui me dit à chaque fois, mais il y a trop de pâtes, c'est pour la semaine maintenant, qu'est-ce qu'on va foutre de ça?
Non, mais 3 kilos, c'est pas possible.
Mais je faisais le paquet entier, parce que j'ai toujours
pas le paquet, c'est 500 grammes. Ouais, mais 3 kilos, c'est 6 paquets.
Ouais, mais
Arnaud.
Ouais,
on est sur 3 kilos, hein. 3 kilos de pâtes.
Non, mais 3 kilos, vous confirmez.
Ma soeur, elle me dit à chaque fois, mais t'es pas possible, hein, sérieux, quoi. Il y a trop là maintenant, qu'est-ce qu'on fout avec ça?
Alors, quand vous êtes à jeun, mais pas que, ce sont les œufs mayonnaise.
Ah oui, évidemment.
Ça c'est régime, ça c'est bien.
Ça c'est régime. Alors, comme toute âme rieuse qui se respecte, des bêtises vous en avez faites, ce qui vous a valu une semaine de nettoyage au lycée. Et les femmes de service étaient ravies car vous les faisiez rire.
Ouais, c'est vrai.
Elles ne voulaient pas vous laisser partir. Mais partir, vous l'avez fait, Arnaud Ducret, pour vivre votre rêve. Alors, au début, des plans galères, dormir chez un copain, squatter le studio d'enregistrement d'un copain avec votre sœur, dormir sur un matelas gonflable, prendre des douches dans des bureaux, traverser Paris avec votre scooter rouge pour continuer à faire rire le monde.
Je crois qu'on va te croire, je crois qu'il y a des gens qui prennent des douches dans les bureaux.
Mais ouais, parce que j'avais plus d'appartement.
Arnaud Ducret, merci de confirmer ce que
j'avais
je viens
plus d'appart, j'étais dans un hangar, voilà. Et il y avait dans un hangar où il n'y avait même pas de chauffage, et on dormait avec ma soeur, j'avais pris un week-end et j'allais effectivement me doucher et on traversait des bureaux pour se doucher.
Voilà.
Ouais, voilà quoi.
Donc on en était au
parce
scooter
qu'ici,
rouge.
Y a pas de douche, hein.
Non. Vous réalisez en tant qu'artiste, oui. Frère protecteur, oui. Fils présent, oui. Compagnon fidèle, oui. Mais Arnaud Ducret, il y a aussi eu un grand moment dans votre vie et on ne rigole pas avec ça. C'est vous réaliser en tant que papa. Votre fils, devenu aujourd'hui votre meilleur ami, avec qui vous reprenez toutes les scènes des Bronzés Fonds du ski, et notamment celle-ci.
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un copain?
On l'appelait copain comme cochon.
Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne suis pas vétérinaire. Essayez de comprendre ça, monsieur Guilin.
Docteur, il fait de l'anémie. Il ne mange pas.
Mais bouffez-le, moi je sais pas ce qu'on va vous dire. Mais bouffez-le! Bouffez-le!
Et oui, la scène du cochon.
Ah ouais.
Alors avec votre fils complice plus que jamais, toujours avec cette peur de ne pas être à la hauteur dans tout ce que vous faites, un petit garçon qui vous permet de garder les pieds sur terre en lui promettant, Arnaud, le meilleur monde possible.
Je précise que les wouh, c'est moi, sont d'Arnaud Ducret.
Arnaud Ducret, voilà.
Vous faites presque mieux que le vrai, je trouve.
Ah non, personne ne fait mieux que lui.
Ça vous a plu? Vous êtes reconnu?
Ah oui, bah oui, totalement, oui. Mais c'est un vrai kiff de pouvoir vivre avec mon fils là. Bon, le tableau était formidable. J'étais au ski et il passait les bronzés, donc on s'est allongés tous les deux dans le canapé et puis on était que tous les deux en vacances et on a regardé. Et alors là, quand tu vois toi, tu arrives tellement et que tu vois ton enfant se marrer comme une baleine devant ça. Et donc effectivement, il me fait, papa, attends, je te fais la scène. Il refait toutes les scènes. Ouais, une heure et demie de scène dans le salon. J'ai dit, bon, on va se coucher.
Vous restez avec nous ou pas?
Bien sûr, avec grand plaisir.
Parce qu'on a des pâtes et des steaks. 5
kilos, je crois. Arnaud Ducret, 3 kilos. Arnaud Ducret, notre invité avec lui dans un instant. On découvrira nos indispensables du jour avec Louise Bernard qui nous emmènera au musée de la vie romantique et Clément Le Saffre qui nous parlera d'un comics co-écrit par Stephen King. C'est dans un instant sur Europe 1. Il faut bien 3 kilos de pâtes pour ça.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Dans un instant, on va parler avec Clément Le Saffre d'American Vampire, un comics co-écrit par Stephen King. On parlera aussi, enfin, Louise Bernard va nous emmener même précisément au musée de la vie romantique. Et tout ça, on en parle avec notre invité, Arnaud Ducret, qui sera à l'affiche du film Mine de Rien, qui sort mercredi.
C'est dans un rôle, Arnaud Ducret, dans lequel on ne vous attend pas. C'est pas un film comique à proprement parler, même si souvent on rigole et même beaucoup. Vous diriez que c'est un film engagé?
Ça ne l'était pas. Ça nous dépasse un peu en fait. C'est-à-dire que quand je l'ai, on me l'a proposé il y a 6 ans.
Ouais.
Alors maintenant, ça fait écho avec ce qui se passe en France. Mais il y a 6 ans, la France n'était pas dans le même état. Mais on y allait tout doucement. Et voilà, effectivement, là, on s'est rendu compte que ça faisait, ouais, ça faisait écho, ça résonnait.
Ah, c'est plus qu'un écho. Alors, il y a une délibération du Conseil municipal et on voit le Front National qui vote avec les Insoumis. C'est la première fois que j'entends des considérations politiques dans une comédie. Je veux dire, même dans Baron Noir, le nom des partis a été changé. Là, ah, vous oui, dites oui. les choses.
Bah oui. C'est ce que voulait Mathias, mais ça ne m'étonne pas, ou Philippe Robot aussi qui a coécrit, eux sont assez engagés, mais voilà, donc ils se sont dit pourquoi ne pas les citer quoi.
Il y a même une référence aux Gilets jaunes, j'ai noté ce dialogue, ils sont où les wagonnets? Ils sont sur les ronds-points, il y a une dame qui dit ils ont été abandonnés là, humiliés, comme nous.
Eh ben je sais pas si je me demande si ça n'avait déjà pas été écrit il y a 6 ans cette réplique, je vous assure. Hein.
C'est vrai.
Mais ouais, parce que c'est le paysage en fait que Mathias qui vivait là-bas a retranscrit en fait, parce que c'est très nostalgique. Voilà, il se souvenait de tout ça et donc après, je vous dis, hein, c'est ce qui se passe depuis la nuit des temps, des petits collectifs qui essayent de se
bien sûr. De mais ce qui frappe, c'est le terme rond-point, ah bah parce ça, que c'est, oui, le, alors... c'est le lieu emblématique de
du
combat des Gilets jaunes.
Ouais, je suis d'accord avec vous.
Et il y a aussi des chansons carrément militantes. Alors, il y a Daniel Guichard, Mon Vieux, normal, mais il y a aussi celle-ci, En avant les gueules noires.
En avant, gueules noires, hissons notre drapeau, rougis du sang, couvert de gloire, de nos martyrs, de nos héros.
Vous avez reconnu évidemment une chanson de Christian Auriol tirée de l'album La Mine, Crise et Chant. Vous l'avez mis dans votre playlist ?
Non, je ne l'ai pas mis dans ma playlist, mais maintenant je l'entends. Avec la promo que j'ai, tous les jours je l'entends.
C'est vrai.
Donc je n'ai pas besoin de la mettre dans ma playlist, mais oui, c'est une l'ambition de Mathias aussi. Je crois que c'est une idée au dernier moment de se dire tiens, prenons des images d'archives et démarrons le film comme ça.
Le début du film est absolument très, très touchant.
Ouais, voilà, donc il a voulu utiliser ces images. Et
il y a aussi, vous allez voir le lien avec la séquence qui suit avec Louise Bernard, il y a aussi beaucoup d'amour. Au-delà de l'amour, il y a beaucoup de tendresse et de romantisme.
C'est à l'image de ce qu'est Mathias, et avec un grand respect pour, il le dit d'ailleurs, pour nos pères, et donc pour les mineurs, c'est très générationnel évidemment là-bas, surtout là-bas.
Mais je pensais même entre mes femmes, il y a des relations, des...
Alors il y a un truc que
mais c'est très très doux, il y a zéro vulgarité.
Exactement, il y a un truc que j'aime énormément dans ce film, c'est que les femmes ont une place très forte, ce sont les meneuses, et ça se sent énormément dans le film, puisque c'est Madame le maire est une femme, Mélanie Bernier qui va nous secouer est une femme, Marianne Garcia qui a son enfant handicapé, c'est une femme et elle avance.
Enfin, elles tiennent la boutique, les femmes, parce que sinon boutique, les gars, c'est plutôt des losers ou des cyniques. Louise Bernard, enchaînement tout trouvé, qui est une femme et qui est une meneuse. Vous nous emmenez au musée de la vie romantique où il y a en ce moment une expo exceptionnelle qui s'appelle Cœur du romantisme dans l'art contemporain.
On a tous déjà dessiné un cœur hein, sur un coin d'un cahier ou pour accompagner un mot doux sur une vitre embuée. C'est ça. C'est le motif universel pour exprimer l'amour, celui qui parle à tout le monde et forcément celui qui inspire aussi les artistes. Donc le musée de la vie romantique a concocté une petite sélection d'œuvres contemporaines autour du cœur, 40 œuvres de 30 artistes différents. Il a fallu faire des choix. C'est une sélection totalement subjective, mais qui permet de montrer différentes représentations du cœur. Écoutez Gaëlle Rio, la directrice du musée.
Parfois le cœur est un cœur, je dirais, au premier degré. C'est un cœur sucré, un cœur rose, un cœur rouge à la manière de Pierre et Gilles. Et puis parfois c'est un cœur davantage tourmenté, un cœur noir, un cœur brisé, un cœur chagriné. Finalement les artistes s'approprient différemment, de manière très subjective bien sûr, ce cœur. Ce qu'on a pu vraiment ressortir finalement de cette exposition, c'est cette polysémie et cette universalité aussi du cœur et comme expression du sentiment amoureux.
Je mets un cœur pour la voix de cette personne. Ouais. Elle a une voix très attachante. Elle a une voix incroyable.
Ah ouais, et elle parle hyper bien de l'exposition. Ouais. C'est un bonheur de passer 10 minutes avec elle. Bon, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a des œuvres aux matériaux très variés. Peintures, sculptures, dessins, photos, installations, des néons même. Des œuvres de toutes les tailles et certaines très récentes. Il y en a même une de 2019. Hein. Seuls 2 artistes sur 30 exposés sont morts.
Et alors, je vois que vous êtes venue, Louise, avec des photos. Alors, qu'est-ce que c'est ces photos?
Ce sont des œuvres de l'exposition qui m'ont particulièrement plu.
Je vous interromps une seconde. Vous pouvez nous voir, auditeurs, auditrices, sur europe1.fr.
Je les montre déjà comme ça.
Ouais.
Et je les passe à Arnaud Ducré.
Ça, c'est une.
Comment ça, vous l'avez déjà?
Ce sont les amis.
Je vais vous demander de choisir celle que vous préférez.
Ah, oui.
J'ai demandé à la directrice dont vous adorez la voix là, de me décrire et de me décrypter chacune des œuvres.
Elle s'appelle Gaëlle Rio.
Voilà, et on écoutera le son qui correspond à votre œuvre préférée. Vous avez le choix entre Cœur au repos d'Annette Messager, c'est le cœur noir un peu couché que vous voyez, et l'autre œuvre qu'on peut qualifier de pop coquine, qui est d'un couple d'artistes.
J'étais sur les amis d'Alma.
Vas-y, allez, prends la pop coquine.
Pop coquine. Bon, on fait la pop coquine.
C'est un cœur très graphique, un cœur en noir noir et blanc, derrière cette apparente peut-être naïveté ou graphisme presque enfantin hein, de ce cœur qui apparaît très simple, il y a beaucoup d'humour, hein, puisque c'est un dessin un peu à la manière des comics, des bandes dessinées, où on voit finalement la l'échancrure du cœur, qui est une paire de testicules, hein, quand même, il faut bien le dire, qui a la forme d'un cœur inversé, qui est tenu par une main très féminine, très manucurée, donc on peut le voir comme on peut ne pas le voir aussi, il y a un peu un jeu là-dessus, hein, sur cet aspect très technique, très visuel, donc c'est une œuvre à connotation érotique, c'est une œuvre assez drôle de ce point de vue-là.
J'ignorais totalement qu'il allait voir ça,
ça
à Louise Bernard.
Plus,
bah non, je suis tombé de ma chaise là.
Et moi j'ai découvert ces artistes et allez voir un petit peu sur internet Merzik et Morisseau. Ils font vraiment des dessins que dans cet état d'esprit là, c'est vraiment super. Bon, donc vous avez eu un petit aperçu de ce que vous pourrez voir dans l'exposition, mais en vérité c'est tout le lieu hein, qui vaut la peine de se déplacer. L'exposition en elle-même, elle est très agréable à regarder, mais c'est surtout son cadre qui la rend vraiment unique.
Vous parlez du musée de la vie romantique.
Oui, les œuvres contemporaines de cœur, elles tranchent avec les collections permanentes du musée. Des œuvres du 19e siècle.
Cette exposition, selon moi, s'inscrit pleinement dans le musée, est très cohérente par rapport à la thématique des collections permanentes du musée. Donc c'est vraiment un tout. C'est à la fois une manière de découvrir une sélection peut-être un peu inattendue d'œuvres autour d'une thématique qui peut parler à tout le monde, et dans un musée qui, pour les gens qui ne le connaissent pas, qui est une vraie découverte et une vraie inscription aussi dans l'histoire de la création.
Oui, le musée, ça fait partie des petits trésors de Paris. Vous passez le portail, vous avez l'impression de quitter la capitale. La cour pavée de cet hôtel particulier, bourré de charme, son joli jardin, ses ateliers d'artistes. Un conseil, commencez par les collections permanentes, vous vous laissez absorber par le lieu. Allez à l'exposition cœur, là vous vous laissez surprendre par le contraste avec par le contraste du contemporain, et puis finissez par le salon de thé. Ça c'est mon conseil personnel.
Ça vous fait
c'est
rigoler.
Magnifique. Non mais ça fait vous partie vraiment de l'ambiance. C'est une magnifique serre dans le jardin. Devant il y a des tables en fer forgé au milieu des arbres et des fleurs. Il ne vous reste plus qu'à choisir la bonne personne pour vous accompagner.
Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Merci beaucoup Louise Coeur, c'est à voir jusqu'au 12 juillet au musée de la vie romantique. C'est vrai que c'est magnifique quand arrivent les beaux jours et c'est une exposition Europe 1, ce qui ne gâche rien.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Arnaud Ducret est notre invité. On va revenir à son actualité dans un instant.
Oui,
avant,
s'il vous plaît, oui.
J'espère bien. Avant de continuer à faire le tour de nos indispensables du jour, on va parler comics avec Clément Le Saffre, Philippe.
Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous conseillez un comics. On va dire ce que c'est. C'est pas tout à fait de la BD. C'est quoi un comics pour les gens qui ne savent pas?
C'est le style de BD à l'américaine. Donc c'est un peu différent.
Et pas n'importe lequel. Un comics écrit par Stephen King en personne.
Oui, c'était en 2010. Ça s'appelle American Vampire. C'est une histoire, comme son nom l'indique, de vampires. Pour ses 10 ans, elle ressort dans une édition intégrale en France. C'est l'occasion pour nous de redécouvrir une autre facette du maître de l'horreur.
Alors comment Stephen King s'est retrouvé à écrire une BD?
Il y a une astuce. Ce n'est pas Stephen King lui-même qui a imaginé American Vampire, mais Scott Snyder, un auteur de comics américain. À l'époque, il n'était pas très connu et débutait. Alors pour se lancer, il a essayé de faire comme beaucoup d'écrivains. Il a essayé de gratter un compliment d'un auteur plus connu que lui.
C'est drôle.
Alors c'est une technique qui est très connue, un procédé. Vous savez, quand vous achetez un livre et que sur la quatrième de couverture, ouais, il y a écrit citation du genre « le meilleur thriller de l'année, adossé à un grand nom de la littérature », eh bien, bien souvent, ce compliment en question a été acheté.
C'est pas vrai.
Absolument, c'est une pratique courante. Elle a même un nom, ça s'appelle le blurb, B-L-U-R-B, c'est pas très joli. C'est Nicolas Caron, notre expert littérature européen, qui m'a expliqué tout ça. Et Stephen King, eh bien, c'est un peu le roi du blurb aux États-Unis. Il accepte un peu tout ce qu'on lui demande. Donc, quand Scott Snyder a eu son idée d'histoire de vampire, il s'est dit bah, « tiens, ça pourrait être pas mal d'avoir une phrase du maître du suspense, de l'horreur en personne ». Donc il l'a contacté, lui a envoyé un petit mail et Stephen King il l'a lu, sauf qu'il a tellement aimé son pitch et son histoire qu'il lui a plutôt proposé d'écrire quelques chapitres et pas juste un petit slogan.
Non mais c'est formidable. Et ça raconte quoi alors justement l'histoire?
Alors American Vampire, c'est l'histoire de Skinner Sweet, un bandit du Far West. Un jour il est mordu par un vampire venu d'Europe, le vieux modèle hein, à la Dracula, ouais, teint pâle et grand croc, vulnérable au soleil avec une grande cape noire. Sauf que Skinner Sweet va muter, va pas devenir juste un vampire européen comme eux, mais une nouvelle espèce, hein, vampire américain, l'American Vampire, plus puissant, plus violent, plus cynique aussi, mais surtout, lui, il est capable de sortir en plein jour et il va donc chercher à se venger de ceux qui l'ont condamné à vivre pour l'éternité.
Et donc, si je comprends bien, c'est pas une histoire de vampire classique. Donc.
En effet, c'est des vampires contre des vampires, avec au milieu des chasseurs de vampires, et l'objectif de Stephen King et de Scott Snyder, c'était de contrer les vampires pour Midinette, comme il les appelle. Hein. Vous savez, on est en 2010, à l'époque, c'est Twilight, la saga pour ados, ouais, qui cartonne, avec des vampires un peu beaux gosses, ténébreux, tout ça, sauf que pour Scott Snyder et Stephen King, bah ça c'est pas des vampires. Hein. Les vampires pour eux c'est des tueurs, des vrais monstres. Donc ils ont voulu revigorer un peu l'image poussiéreuse des vieux vampires. Et c'est ce qu'a fait Scott Snyder.
Dans notre mythologie, les vampires que l'on connaît ne sont qu'une espèce de monstre parmi d'autres. En réalité, il y a plusieurs espèces de vampires, et ils appartiennent à la même lignée que les loups-garous, les zombies, les momies. Chaque monstre provient d'une même lignée, tout part d'une première infection mystérieuse. À partir de là, je peux utiliser tous les monstres que je veux dans la série.
Voilà, donc Scott Snyder, il s'amuse avec la mythologie des vampires, il fait vraiment plein de choses. Ça donne un comics très libre qui revisite aussi l'histoire des États-Unis, hein, de la conquête de l'Ouest jusqu'au premier pas sur la Lune, mais avec le prisme des vampires qui contrôlent un peu l'économie et la politique américaine. Ça donne un comics donc passionnant qui explore plein de genres différents. Ça va de l'horreur pure, bien sûr, mais aussi le western ou le film noir.
Ah, le western. Alors, vous disiez que c'est sorti en 2010, on est en 2020. Il y a quoi comme nouveauté? Il y a un plus produit ou c'est la même,
alors,
album identique?
Il n'y a pas de gilet jaune vampire encore, gilet noir. Dans le deuxième tome. Alors, en fait, c'est une édition qui est enrichie avec plein de bonus. Il y a des croquis, des storyboards, des couvertures alternatives, c'est vraiment magnifique. Il y en aura 5 comme ça au total, et vous remarquez, pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr, c'est quand même assez costaud.
C'est épais, ouais.
Il y a 450 pages rien que pour le premier tome, il y en aura 5, hein, je le répète. Donc vous en avez pour votre argent à 28 euros par tome, 450 pages, il y a pas mal de lectures.
Ouais, combien ça coûte ?
28 euros.
D'accord, c'est pas mal. Ça vous tente, Arnaud Ducret ? Vous êtes fan de l'histoire de vampires ou pas ?
Au cinéma, ouais. Je suis pas très BD en fait, ouais. Quoi, mais au cinéma, ouais, j'adore les films d'horreur, les thrillers, les films de genre.
On va demander une adaptation alors.
Ouais. Alors là encore, l'enchaînement est pas facile à faire.
Alors dites-moi. Arnaud
Ducret, mais vous avez tourné un film pour M6,
oui.
Dans lequel vous incarnez Xavier Dupont de Ligonnès,
oui.
Qui est supposé avoir assassiné sa femme et leurs 4 enfants dans la maison de Nantes.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'arrestation ? Vous avez arrêté le tournage ?
Alors très égoïste. Alors on avait déjà tourné.
Ah bon, d'accord.
C'est bien le problème. Non, très égoïstement.
Non, mais là maintenant qu'on sait que c'est pas lui, tant mieux,
oui,
parce que sinon
voilà,
tout
voilà.
Votre film était à mettre à la poubelle.
Exactement, et très égoïstement, Pierre Aknin, le réalisateur, m'appelle. Je vais manger au restaurant avec des potes et il me dit Arnaud, ouais, on l'a retrouvé. Je dis, écoute, vas-y, laisse tomber. Hey, parle-moi d'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Je pensais qu'il déconnait.
Ouais.
Il me dit, Arnaud, on l'a retrouvé. Je fais, non. Et effectivement, j'étais, là, la vérité, si vous voulez, était plus forte que la fiction. Là, c'est tout d'un coup, tout le monde aurait voulu savoir les enquêtes criminelles et tout ça. Quoi.
Il se passe quoi dans l'histoire ? C'est après ou c'est pendant ?
Non, c'est pendant. Et aussi, la genèse, justement, c'est l'enfance de ce monsieur. Voilà, il s'est énormément rencardé. Pierre Aknin qui a écrit avec sa femme. Toute l'enfance. Il avait quand même une mère qui pensait avoir des messages de Dieu. Elle disait que lui était limite l'élu, qu'il ferait de grandes choses. Enfin, voilà, il y a toute la pression religieuse, pression sociale de la famille.
Et d'un mot, vous dites avoir travaillé votre voix, votre posture avec un coach. Vous avez imité Dupont de Ligonnès ?
Non, mais j'ai une voix. J'ai pas imité Dupont de Ligonnès parce qu'on n'a pas beaucoup de vidéos en fait.
Mais c'est quoi sa voix ?
Non, c'est que j'ai baissé un peu ma voix avec un peu truc un peu plus voilà, plus gourou, plus père de famille, plus fin. Donc je parlais comme ça. Et puis après, c'est dans les attitudes, dans les regards, dans les non-dits, dans les silences, tout ça. Je travaillais avec Patricia Sterlin, ma coach comédienne.
Ça sera à voir prochainement sur M6. On a encore plein de questions à poser à Arnaud Ducret.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant et c'est avec notre invité Arnaud Ducret sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est la dernière partie de Culture Média, Philippe, avec notre invité Arnaud Ducret.
On parlait, Arnaud Ducret, de votre actualité, le film Mine de Rien qui va sortir mercredi. On parlait du biopic dans lequel vous incarnez Xavier Dupont de Ligonnès, qui n'est pas tout à fait un biopic. Et là, vous serez également prochainement dans Pourquoi je vis. C'est le biopic sur Grégory Le Marchal, faut-il le rappeler, qui est le gagnant de la Starac, mort de la mucoviscidose à 23 ans. TF1 a fait savoir que le scénario, ça m'a beaucoup plu, serait assez joyeux. C'est-à-dire ?
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on, au-delà du fait qu'on va parler de quand les parents découvrent la mucoviscidose avec leur enfant, Grégory tout petit, tout gosse, quoi, comment ils ont dû être, ils étaient totalement perdus, on leur a expliqué ce que c'était, donc voilà. Mais surtout, c'est joyeux parce que c'est ce qu'était Grégory Le Marchal, c'est-à-dire un élan de vie extraordinaire et un gamin hyper positif, grand travailleur et qui se disait que parfois que ses jours étaient comptés, qu'il fallait vivre la vie à fond. Donc, c'est pour ça que c'est joyeux aussi. C'est un vrai élan de ça a été pour lui, il représentait tous ces gamins malades qui leur a donné une force extraordinaire.
Et vous jouez le papa.
Je joue le papa, ouais, Pierre Le Marchal.
Ça a passé sur TF1.
Oui.
Vous savez quand ?
Je ne sais pas encore.
Vous avez déjà le titre ?
Pourquoi je vis ?
Je l'ai dit en plus.
Ah bah oui, voilà,
je veux dire pourquoi
bah
parce que je viens d'apprendre le titre d'une série qui va passer sur TF1. Ça va s'appeler Plan B. Et dans le casting, oui. Parmi les premiers rôles, notre stagiaire, Julie Debona. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors je l'ai dit, Julie est en stage depuis une semaine d'observation ici pour voir comment se fait une émission de radio. Et là, c'est comme quand on est élève de 3e, à la fin, il y a un rapport de stage.
Mais pourquoi tu t'infliges ça, Julie ?
Et au lieu de l'envoyer à ses parents et au prof principal, elle va nous le faire en direct. Julie, c'est à vous.
Donc merci de m'offrir 1 minute 25 d'antenne, car ici je sais que c'est hyper chronométré.
C'est minuté.
Et merde, je viens déjà de perdre 4 secondes. Donc vraiment, Philippe, je ne m'attendais pas à un tel tourbillon. Alors, ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que ça fuse dans tous les sens dans les coulisses. Alors, je vous explique. En régie, il y a Nicolas, debout derrière ses manettes, prêt à bondir pour trouver le bon son qui correspond à ce qui est en train de se dire à l'antenne. En studio, Hélène Manorino, malgré les grésillements dans son casque, enchaîne sa chronique culture avec panache. Philippe Vandel, le fédéraire de la réplique, lui renvoie la balle et lui permet de finir en beauté. C'est quand même le chef d'orchestre. Et il y a toujours à sa gauche.
Dis donc, merci Nico.
Céline Acosta, imperturbable, qui tient le cap. Et puis tout d'un coup, il y a la journaliste qui présente les infos, qui rentre en panique dans le studio. Elle passe dans 2 minutes en direct, mais n'a pas de texte. L'imprimante fait des siennes.
C'était même 50 secondes ce jour-là.
Nicolas, appelle la centrale. On est dans 24 heures chrono, ou 2 minutes chrono plutôt. Sophie Sassier, elle a à peine le temps de respirer, qu'elle enchaîne les infos avec un flegme déconcertant, sans que sa voix ne tremble. Alors, rien que moi, en la regardant, je suis en train de faire une crise cardiaque. Donc après 2 heures intenses de direct, l'équipe se met déjà à plancher sur l'émission du lendemain. Alors que moi, je pensais que c'était déjà la fin de journée, quoi. Non. Et il faut savoir que derrière votre poste de radio, il y a quand même 200 personnes qui travaillent. Ça fourmille à la rédac. Ça fait des conférences, ça revendique des sujets, ça fait le scoop, ça cherche le scoop, ça part sur le terrain. Ça va manger à la cantoche aussi. Et ça fait des siestes pour les matinaliers qui sont debout depuis 2 heures du mat, les gars. Alors surtout, surtout, j'ai rencontré des gens mais passionnés et passionnants. Merci Anissa Haddadi. Et j'ai compris que la radio, bah, c'était un sacré putain de métier.
Merci Julie Bonnard. Oh dis donc, il y a Hélène Manarino qui est revenue en studio pour voir sa copine. Merci beaucoup.
Oui, merci.
Vous commencez quand le tournage?
En avril.
En avril, et ça sera quand à l'antenne sur TF1?
L'année prochaine.
Ça va s'appeler Plan B, ça sera avec Julie Debonnat, ça sera réalisé par Christophe Campos. Quoi d'autre comme projet?
Julie fait un film sur une morgue, là. J'ai hâte de voir ce que ça.
Est-ce que j'ai passé mon stage?
Oui, c'est bon, c'est bon, on met TB, très bien. Un one-man show, vous en avez refaire un ou pas?
J'en ai écrit pour octobre 2020. Oui, ouais, mais après, j'ai plein de projets de films qui arrivent. Alors c'est
allez-y, il y en a tellement.
Ben oui, j'ai très envie.
Dans le film de Michael Youn, d'ailleurs.
Oui, Divorce Club, je le dis parce que j'en suis très fier, prix du jury, prix de la presse. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Mine de Rien, c'est une comédie pop-corn. On s'assoit et pendant 1h45, on suit ces deux héros incroyables qui partent en
je crois que vous allez dire pendant une minute, pendant 1h30, on grossit.
C'est génial.
Vous l'avez vu, Julie, ou pas?
Oui, j'ai adoré.
Merci. Voilà.
Juste un mot, ça fait longtemps que vous ne la faites plus. Vous savez toujours imiter Kit, la voiture de
K2000. C'était ouais, et quand tu fermais les portes, ça faisait... Alors, quand elle passait, elle faisait. Voilà.
Génial.
C'est vraiment chier quand j'étais gamin.
Arnaud Ducret, je rappelle, Mine de Rien, le fils de Mathias Mlekuz, ça sort demain. Mercredi. Le film, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Non, le film. Julie Debonnat, vous serez dans Plan B, on ne sait pas quand, ça sera en 2020 sur TF1. Hélène Manarino, vous serez bientôt avec nous, on vous aime. Merci beaucoup,
Clément Ducret.
Non, pas du tout, elle est toujours avec nous. Merci Louise Bernard, vous serez au musée de la vie romantique en train de regarder des petits dessins que la morale réprouve. Voilà. Et Céline Acosta, on est ravis de vous avoir eu. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. Nous serons avec les youtubeurs McFly et Carlito et Elodie Frégé. Ils sont dans. Tout le monde est dans Divorce Club, c'est pas possible. Ouais. Ça donne plus du tout envie de divorcer. Elodie Frégé pour La Belle et la Bête avec André Manoukian. Merci encore Arnaud Ducret. Quelle émotion, quel speed. Bon week-end, à lundi. Waouh, je suis content de souffler.
À lundi, Philippe Vandel. Dans un instant, Anne Romanoff débarque avec toute sa bande et leurs invités pour vous faire du bien sur Europe 1.